Quand tu veux.
Oui, ben merci. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être je vais commencer aussi par déjà commencer à remercier Mathieu pour cette invitation à participer à cette journée d'études syndicales. Alors, permettez-moi de me présenter en quelques mots pour situer mon point de vue, dire d'où je parle. Alors, Mathieu l'a rappelé, donc je suis professeur à l'Université de Lorraine. Donc, je suis sociologue du travail, donc dans le laboratoire TETRAS, Territoire Travail Achanté. Donc, c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière à l'Université de Lorraine, un pur produit local. J'ai fait ma thèse, j'étais maître de conf, j'étais prof. Donc, c'est une institution que je connais bien et j'ai rempli plusieurs mandats au sein de l'Université de Lorraine. Et je suis encore actuellement élu au conseil scientifique de l'Université de Lorraine, donc sur une liste intersyndicale, Sud, CGT, FSU, pour aller vite. Comme ça, j'ai réussi à convaincre le public. et donc, je suis sociologue du travail. Et depuis, on va dire, mon habilitation à diriger des recherches, que j'ai soutenue il y a déjà 10 ans, puisque je ne suis plus tout jeune, je travaille sur... voilà, pour résumer, en tant que sociologue, les affinités électives entre la gouvernementalité managériale et le néolibéralisme. Alors, ça fait plein de gros mots. Alors, on pourra revenir effectivement sur ces néologismes. Mais l'idée, c'est en tout cas d'élaborer une pensée critique du travail sous la gouvernementalité managériale et le néolibéralisme. Donc, c'est une pensée critique du travail qui a été nourrie par différentes enquêtes sur la justice, sur l'université et plus récemment sur l'hôpital public. Et donc, je fais comme le font habituellement des sociologues, je procède par des monographies qui me permettent de saisir comment la managérialisation de ces organisations, des tribunaux judiciaires, des universités, des CHU, contribue à les réformer et à former un État néolibéral qui est considéré par le géographe David Harvey comme la pierre angulaire de la nouvelle phase expansionniste du capitalisme. Alors voilà, donc ça c'est une vision très macro. Bon, en tout cas, voilà, mon hypothèse de travail, elle est assez simple, elle est de poser le New Public Management, la nouvelle gestion publique, or qui n'est plus si nouvelle que cela, comme un avatar de la gouvernementalité managériale, le cheval de Troie de la rationalité néolibérale à la conquête de l'action publique. Et donc, l'université, comme la justice, sous l'influence du New Public Management, est bouleversée par un même sens commun réformateur. Donc voilà, je pars de cette idée-là que dans nos organisations publiques, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État, il y a un même sens commun réformateur. Alors, il y a bien sûr des traductions sectorielles de ces réformes-là, mais voilà, on peut aussi voir un certain nombre de convergences. Alors, ce cadre étant posé, on ne peut bien sûr se contenter d'une lecture causaliste qui expliquerait les transformations du service public, de la justice ou de l'ESR, comme de simples traductions de l'idéologie néolibérale ou de réformes néolibérales. Donc, il faut étudier le processus de changement et s'intéresser aux vecteurs qu'il porte, non seulement, donc pour reprendre la dichotomie de Frédéric Misbel-Blombeyer, les dispositifs de recadrement figé, c'est-à-dire les outils, les instruments, les dispositifs, mais aussi les dispositions de l'encadrement en chair en os, ce qu'on appelle les managers, leurs alliés et leurs dépendants qui exercent un pouvoir effectif et pilotent le changement. Donc, en tout cas, dans mes travaux, j'essaie toujours à la fois d'analyser les dispositifs et les dispositions, donc la machine managériale, mais j'ai aussi les machinistes qui font fonctionner cette machinerie. Donc l'intervention que je présente aujourd'hui, elle s'appuie sur un travail de recherche qui a été conduit dans le cadre du contrat de plan État-Région. Donc celui-ci portait, je cite, sur les outils de gestion comme levier des mutations des organisations privées et publiques du territoire. Et un des volets de cette recherche a porté sur les outils de pilotage, de gestion budgétaire, de gestion des ressources humaines, qui accompagne la modernisation des universités. Alors, modernisation avec les guillemets d'usage. Mais l'idée, effectivement, était de comprendre comment ces dispositifs allaient réformer et moderniser les universités. Donc il interroge ce projet, les conséquences de cette instrumentation gestionnaire, managériale, sur l'université française. Comment cette instrumentation, elle participe au changement institutionnel, organisationnel et professionnel de l'université. Donc, bon, c'est assez classique en sociologie de retenir effectivement ce triptyque institution, organisation, profession, et que ce soit l'université, la justice ou l'hôpital. Voilà, on peut effectivement étudier ces institutions, ces organisations et leurs professions. Donc, comment la managérialisation à l'œuvre de l'université, qui passe par la traduction des pratiques de ses agents dans une grammaire gestionnaire, contribue à transformer. Alors, je ne vais pas revenir sur l'abondante littérature qui existe sur le New Public Management et les professions dans l'État. Voilà, je me réfère juste à un dossier débat qui a été publié il y a 10 ans par la revue Sociaux du Travail. C'était un dossier qui avait été effectivement coordonné par Philippe Bezès et Didier Demazière. Et je retiens l'hypothèse que les transformations des formes de pilotage, d'organisation et de contrôle des administrations publiques font émerger de nouveaux professionnels, notamment à l'échelle des fonctions de management. Alors moi, je n'ai pas parlé des petites mains d'excellence ou des porteurs de ces projets d'excellence, mais plutôt ce que j'appelle la technobureaucratie universitaire. Alors Audrey parlait de restratification par le haut et par le bas. À la rigueur, je pourrais presque parler de reprofessionnalisation aussi par le haut et par le bas. Alors, la question que je pose est la suivante. Voit-on se dessiner une nouvelle technobureaucratie universitaire qui fonctionnerait comme le bras armé du corps de bureaucrates qui se sont spécialisés dans les fonctions de direction et de pilotage de la gouvernance universitaire? Alors, voilà, l'idée, alors c'est pas moi qui l'ai montré, hein, mais Christine Musselin et d'autres ont montré qu'on avait constitué un état-major qui se spécialisait dans les fonctions de direction. Et il y a un pendant, c'est effectivement ce que moi j'appelle la technobureaucratie universitaire. Alors, je ne sais pas si dans l'auditoire il y a des personnels BIATS, mais s'il y a effectivement des personnels BIATS de catégorie A, c'est notamment peut-être eux que je vais viser ici. Alors, ils ne font pas tous partie de ce que j'appelle la technobureaucratie universitaire, on va le voir. Donc, je vais vous proposer voilà, une intervention en 6 points, en espérant ne pas être trop long. Donc, après un rapide détour sur quelques éléments de contextualisation, je vais faire un rappel tout aussi rapide sur mon terrain, ma méthodologie, les matériaux. Je reviendrai ensuite sur 2 monographies que j'ai réalisées. La DAPEC, la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité, et la direction des ressources humaines, la DRH, en insistant davantage sur cette dernière et les nombreux outils ou dispositifs de gestion qu'elle déploie pour moderniser l'université, et en essayant aussi de saisir les effets de cette instrumentation. Je m'arrêterai sur, dans un 4e temps, les planeurs de la DRH, selon le terme de Marie-Anne Dujarrier. Alors, je reviendrai sur qui sont ces planeurs. Qu'est-ce qu'on entend par planeur avec 2 N? Et dans un 5e temps, je parlerai aussi de l'instrumentation qu'il mobilise et une instrumentation inédite. Aujourd'hui, quand on regarde nos institutions, on a une profusion de dispositifs et donc on est dans un management par les dispositifs. Et je vais revenir sur ce que fait ce management par les dispositifs sur nos institutions. Et donc, je conclurai dans un dernier temps sur les effets transformatifs de la dynamique de rationalisation de l'université, en posant justement l'hypothèse qu'elle s'accompagne de la fabrique d'une technobureaucratie universitaire. Alors, quelques éléments de contextualisation. Alors, je vais aller vite puisque je ne vais pas faire un détour long par l'histoire des universités et revenir sur les réformes entreprises au tournant du siècle dans le cadre du processus de Bologne et de la stratégie de Lisbonne. Dans le cadre de ces journées d'études syndicales, on vous en a certainement parlé. Il y a une abondante littérature hein, sur ce récit-là, avec précisons-le, des interprétations divergentes. Hein. Je citais, on en parlait en aparté, Christine Musselin. Christine Musselin n'a pas du tout la même interprétation que, par exemple, Joël Lallier ou Christian Topoloff. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, on a effectivement des chercheurs qui ont des interprétations divergentes, mais s'ils ne posent pas le même diagnostic sur les réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche, ils, elles font le même constat d'un remodelage du paysage universitaire qui touche à la fois le programme, le financement et la gouvernance. Donc, Joël Lallier et Christian Topoloff ont retracé le récit de cette dynamique réformatrice dans un ouvrage récemment paru en 2022, « Gouverner la science ». Alors, je rappelle juste comment, effectivement, ils font la chronologie de ces réformes, parce que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, je crois qu'il n'y a peut-être pas d'âge d'or de l'université, mais je crois qu'effectivement, il y a une dégradation qui est liée quand même aux réformes qui ont été entreprises depuis deux décennies. Hein. Et je crois qu'on ne peut pas effectivement comprendre la dégradation et la perte de sens sans rappeler le contexte. Donc, premier temps, mise en place des outils de pilotage centralisé de 2004 à 2007. Big Bang des réformes de 2007 à 2011, qui s'ouvre avec la fameuse loi Pécresse, relative aux libertés et responsabilités des universités, la LRU, avec le passage aux responsabilités et compétences élargies, les RCE. Consolidation et mise en œuvre de 2011 à 2017 avec la loi Fioraso, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, avec le regroupement d'établissements, les fameuses fusions, les fameuses communes, et radicalisation des réformes de 2017 à 2020, avec comme point d'orgue la fameuse LPR, la loi de programmation de la recherche de 2020, en attendant l'acte 2 de l'autonomie des universités, alors, qui va être peut-être un petit peu décalé, vu l'épisode électoral que nous sommes en train de vivre. Alors, en tout cas, l'objectif visé de ces réformes, eh bien, comme l'avait annoncé Bernard Belloc en 2001, qui était alors le président de la conférence, le patron de la conférence des présidents d'université, la CPU, qui est devenue France Université, de remplacer l'autonomie des universitaires par l'autonomie des universités. Et l'autonomie des universités, c'était surtout donner du pouvoir à quelques-uns, et notamment aux présidents et aux présidentes des universités et leur état-major. Donc, alors, quand on dit que notre université, notre institution, elle est irréformable, voilà, quand on voit cette frise-là, on voit bien qu'effectivement, et notamment depuis le début du XXIe siècle, on a subi énormément de réformes. Et le paysage universitaire a complètement changé, et cette dynamique réformatrice, encore une fois, si ça vous intéresse, elle est très bien mise en récit par Joël Lallier et Christian Topoloff. Donc, conjointement à cette dynamique réformatrice, on assiste aussi, on constate, un accroissement des missions auxquelles doit contribuer le service public. Alors, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais il y a une multiplication de missions à remplir et une inflation des normes et des dispositifs. Et c'est une conjonction qui vient renforcer la place des fonctions support et de ses agents qui sont, et là je cite Julien Barrier et Christine Musselin, les promoteurs actifs d'initiatives de rationalisation et de l'introduction des logiques managériales. Donc je crois que pour comprendre effectivement notre situation aujourd'hui, il faut les situer dans cette dynamique réformatrice, la dernière réforme en date étant la fameuse LPR, qui nous a fait notamment descendre dans la rue, qui n'a rien changé à l'affaire, hein, d'où la difficulté effectivement de résister. Mais voilà, on ne peut pas ouvrir la boîte noire des outils de gestion sans effectivement la situer dans ces réformes. Et il faut aussi considérer cette boîte noire en les considérant dans leur état circulant, c'est-à-dire la forme micro, où l'outil intervient sur un vaste périmètre national, voire international, et dans leur état inscrit, la forme plutôt la micro, qui correspond à des outils contextualisés, spécifiques, à une organisation et à son contexte interne. Alors, et même si de nombreux outils ou dispositifs introduits dans les universités semblent relever de ce qu'on appelle un isomorphisme, un isomorphisme coercitif, c'est-à-dire imposé par l'autorité publique, comme la gestion budgétaire et comptable publique, la GBCP, ou le fameux régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel, le RIFSEP pour les BIATS et le RIPEC pour les enseignants-chercheurs. Alors, il y a des traductions locales. Ça s'impose à nous, mais le RIPEC à l'Université de Caen, il n'est pas mis en place peut-être de la même manière qu'à l'Université de Lorraine. Il reste ces dispositifs toujours mis en œuvre et utilisés sous une forme inscrite et située. Alors, en tant que sociologue, c'est quand même sous cette forme-là que nous les observons sous le terrain. Et donc, c'est aussi en allant voir comment on met en place ces dispositifs, comment ils sont implémentés, on va le dire comme cela, qu'on peut effectivement comprendre que font ces dispositifs à nos métiers. Alors, j'en arrive au terrain, à la méthodologie que j'ai déployée pour faire ces deux monographies. Donc, mon travail, notre travail, a porté sur l'Université de Lorraine, donc qui, après l'Université de Strasbourg, fait partie des premières universités fusionnées, donc l'université qui m'emploie. Sa création au 1er janvier 2012 est le résultat de la fusion de quatre anciens établissements, l'Université de Nancy 1, Henri Poincaré, l'Université de Nancy 2, l'Université Paul Verlaine et l'Institut National Polytechnique de Lorraine. Donc on est maintenant à une grosse université avec 50 sites. Elle a opté pour le statut de grand établissement qui permet de déroger au droit commun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. On est comme Paris Dauphine, donc on peut déroger à un certain nombre de règles. Et donc on est dans une structure très complexe puisqu'on est structuré en 9 collégiums et 10 pôles scientifiques, 9 collégiums qui regroupent 43 composantes, donc des écoles, des UFR, des instituts, des facultés, et 10 pôles scientifiques qui regroupent 60 laboratoires et 7 fédérations de recherche. Elle totalise donc 7000 personnels, 54% d'enseignants-chercheurs et 46% de personnel BIATS. Et le processus de structuration de l'Université de Lorraine, comme pour d'autres groupements, a conduit au renforcement des fonctions de DRH, finances et juridiques, qui ont nécessité une augmentation des personnels dédiés, une modernisation de la gestion des ressources humaines et l'adoption de nouveaux outils ou dispositifs. Alors, il y a eu des thèses, des recherches sur les fusions, les communes, et on voit bien effectivement que ça demande à créer de nouveaux postes de support et donc de nouveaux agents qui vont participer à cette modernisation des universités. Et pour exemple, si je prends le service de la DRH, chez nous, la DRH, elle compte, au moment de mon enquête, 113 agents répartis pour moitié en catégorie C et pour l'autre en catégorie A et B, avec respectivement 27 et 24 agents. Et c'est surtout dans ma recherche la catégorie A que j'ai interviewée, puisque c'est eux qui, pour moi, forment la technobureaucratie universitaire. Et outre l'évolution numérique, la fusion a entraîné donc une modernisation des ressources humaines qui s'est traduite par le remplacement des services de gestion des personnels, des anciens établissements administrant essentiellement les payes, les contrats et les carrières, par une direction des ressources humaines devant aussi accompagner le pilotage du nouvel établissement. Alors, voilà, il a fallu fiabiliser les données, sécuriser les actes de gestion administrative, harmoniser les procédures et les pratiques, accompagner les personnels dans ce nouvel environnement, autant d'objectifs donc qui ont conduit à réformer la gestion des ressources humaines et adopter de nouveaux outils ou dispositifs. Et c'est encore une fois ce que font ces outils et ces dispositifs à l'institut universitaire qui m'intéresse. Alors, ma méthodologie a été plurielle. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai réalisé 2 monographies de service, la direction des ressources humaines et la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité, à DAPEC. Donc, pour la DRH, j'ai réalisé 18 entretiens auprès du DRH, des sous-directeurs et sous-directrices, des responsables de pôle et des chargés de mission. Et pour la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité, j'ai fait des entretiens auprès de la directrice, des trois responsables de pôle et de trois chargés d'études. Alors, au final, le fait d'être dans l'institution m'a plutôt aidé. Le fait d'être reconnu dans l'institution m'a aussi plutôt aidé, même si je n'étais pas forcément dans la majorité présidentielle. On ne m'a pas forcément mis une barrière pour ces raisons-là. Et l'autre aspect de ma méthodologie était de faire aussi l'étude de différents outils. Alors, je ne vais pas beaucoup en parler ici parce que je n'aurai pas le temps. Mais alors, la gestion budgétaire et comptabilité publique, alors c'était une doctorante qui travaillait sur cette question, malheureusement qui n'a pas terminé sa thèse. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les tableaux de bord. Et l'idée, c'était de voir voilà, comment on concevait ces outils, qui les concevait, comment on les mettait en place et quels en étaient les usages, puisque entre la conception aux usages, il peut y avoir effectivement de grandes différences. Alors, j'en viens à mon point 3, où je vais parler un petit peu de la DRH et un peu de la DAPEC, mais surtout de la DRH. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis intéressé à la DRH et à la DAPEC. J'aurais pu choisir d'autres services, mais j'ai choisi ces services parce que je les ai considérés comme des organes centraux et stratégiques dans la structuration de l'Université de Lorraine et parce qu'on y trouve les fameux planeurs dont parle Marie-Anne Dujarrier. Donc, c'est ces cadres, producteurs et diffuseurs de dispositifs qui encadrent massivement l'activité. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui ont eux-mêmes ont des fonctions de manager, ils n'encadrent pas forcément les équipes, mais ils produisent des dispositifs dont d'autres vont se servir. Alors, je ne me focaliserai pas ici sur la DAPEC, parce que je n'ai pas encore eu trop le temps d'analyser tous les entretiens, mais il s'agit d'un organe central dans la construction et aujourd'hui dans le fonctionnement de l'Université de Lorraine, pensé comme un service d'accompagnement et d'appui à la décision, qui est l'émanation du centre de ressources en amélioration de la qualité, le CRAC. Ça ne s'invente pas, hein, ces acronymes-là. Hein. Le CRAC, et ce centre avait pour objectif, selon la directrice de la DAPEC, je la cite, de faire commencer à travailler les gens en commun et animer, partager les pratiques, partager les bonnes pratiques, diffuser les travaux. Bon, cette rhétorique-là, elle vous est familière, hein, il faut partager les bonnes pratiques. Et les réponses apportées à DAPEC, énumérées dans un document du 2 février 2012, témoignent d'un déploiement inédit d'outils dispositifs, je les cite pêle-mêle, données, tableaux de bord, enquête interne et externe, calcul de coûts, audit, analyse, méthode et outils, aide et conseils, formation, conférence, coaching, soutien, outils d'organisation, démarche qualité, etc. Et si l'on s'en tient à cette dernière démarche qualité, on peut affirmer que la démarche qualité, qui était embryonnaire dans les ex-établissements, devient un outil stratégique pour l'Université de Lorraine. Et donc, tout le monde est invité à déployer une démarche qualité dans ses composants, aussi bien dans les UFR que dans les laboratoires. Hein, quelle fut pas ma surprise quand j'étais moi-même directeur de laboratoire, que j'étais interpellé parce que j'avais encore pas mis en place la démarche qualité dans mon laboratoire de sociologie. Alors, on pourrait s'arrêter sur la novlangue managériale qui accompagne cette modernisation. On a parlé beaucoup d'excellence. Hein. Voilà, je trouve que l'exemple de Didier Raoult, c'est quand même un bon exemple. Ça montre aussi c'est quoi l'excellence, ce que peut être aussi l'excellence. Alors, je prendrai juste un exemple récent hein, pour illustrer la banalisation de cette rhétorique managériale dans notre institution, celui de la mise en place d'un Deep Change Lab. Alors, ça ne s'invente pas, hein. Un Deep Change Lab, il faut parler anglais, hein, sous l'impulsion de la directrice démissionnaire d'ADAPEC, qui prend en charge donc ce Deep Change Lab, pour développer une culture organisationnelle propice à l'innovation et à l'amélioration de nos interactions avec les acteurs du territoire, en invitant les personnes à devenir, je cite, des ambassadeurs et ambassadrices du changement et prendre part à des objets de transformation stimulants. Voilà. On nous invite à être des ambassadeurs du changement. Et voilà, et on a une démarche réinventer le rapport au travail. On nous invite aussi à être les propres acteurs de notre rapport au travail et donc de réinventer le rapport au travail. Donc on a comme ça plein d'injonctions de l'université où nous devons être acteurs de la modernisation de notre université. Et pour la DRH, on peut soutenir l'idée que la fusion a permis de repenser le modèle d'AGRH avec la jonction de passer le cap de la seule gestion administrative et bureaucratique des personnels pour tendre vers un management plus stratégique des ressources humaines. Donc cette conception qui semble partagée par les cadres des ressources humaines ne se traduit pas forcément dans le management de proximité assuré par les chefs de service, responsables administratifs ou directeurs des composants, comme le suggère une directrice interviewée. Je la cite, « Le volet qui pêche le plus, c'est le volet managérial. Clairement, dans tous les audits qu'on fait, il y a un problème au niveau de la couche managériale, qu'elle soit au niveau des chefs de service ou responsables administratifs, etc. Parce que ce n'est pas partout, mais on manage encore beaucoup à l'ancienne. » Voilà. Donc on est nul en management, il faut que les directeurs de laboratoire, que les directeurs du FR, voilà, se perfectionnent pour animer leurs équipes. Et donc, une réorganisation de la DRH est engagée en janvier 2014 à la demande du président pour répondre à trois objectifs. Alors, le président de l'époque, c'était Pierre Mutzenhardt. Aujourd'hui, c'est Hélène Boulanger, qui était la vice-présidente du conseil d'administration de Pierre Mutzenhardt, qui a pris le relais. Et donc, il s'agit d'équilibrer les services internes de la DRH et rendre lisible pour les personnels et pour les composantes l'organisation de la direction, notamment par la création d'un service spécifique dédié au personnel enseignant et un autre service dédié au personnel BIATS. Donc, c'est les premiers rectangles. Donc, vous avez un service qui s'occupe des enseignants-chercheurs, un service qui s'occupe des BIATS. Donc, là, on est sur des services très opérationnels, très techniques. Prendre en compte dans les missions de la DRH l'accompagnement des situations professionnelles des agents en termes de projets professionnels, d'évolution de carrière et de difficultés professionnelles. Donc, on a un service de l'accompagnement des personnels. Et troisième objectif, assurer dans le fonctionnement de la direction un pilotage qui garantisse une action transversale cohérente des structures internes, un pilotage participatif et une complémentarité dans l'action des équipes de non-CMS. Et donc, on a une coordination RH-MES, mais on a surtout un service du pilotage ressources humaines. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez la technobureaucratie du service DRH avec tous les directeurs, les sous-directeurs, les responsables de pôle. Et je vais parler de tous ces planeurs-là. Donc, cette réorganisation, elle s'est traduite par cet organigramme schématisé. Et alors, voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'université de Caen, mais si on remonte il y a 10 ans, on n'avait pas forcément d'organigramme dans les universités. Aujourd'hui, voilà, vous avez un organigramme pour chaque service, pour chaque composante, et tout le monde y va de son organigramme. Et on change, d'ailleurs, d'organigramme assez souvent, hein, comme dans les collectivités territoriales, d'ailleurs. Hein, un nouveau DRH arrive, on va réorganiser, effectivement, le service DRH. Donc, et pour identifier davantage la politique RH, donc le DRH, nommé fin 2016, a institué un projet de direction définissant des objectifs pluriels. Alors, je vous épargne la longue liste de ces objectifs, mais on peut dire que la GRH de l'université est une GRH comme une autre. Le dernier outil élaboré est, par exemple, le café des DRH, qui se tiennent depuis 2022 un lundi matin tous les deux mois, dont les objectifs affichés sont de, je cite, « parfaire les relations entre la DRH et l'encadrement de l'établissement, ainsi que de faire progresser la gestion des ressources humaines à tous les niveaux. » Ah, l'idée, c'est ça, hein, c'est d'harmoniser la manière de manager l'université à tous les niveaux. Donc, il y a quand même, voilà, quand je parle de managérialisation, c'est pas une lubie, hein, c'est vraiment cette idée que il y a bien sûr la gouvernance par le haut, mais on veut aussi, effectivement, managérialiser par le bas. Et donc, depuis la fusion, la DRH se réorganise, révise son organigramme et se fait auditer dans le cadre du dispositif Efficience 2022 du projet d'établissement de l'Université de Lorraine pour optimiser les moyens engagés au service de l'action et améliorer la qualité du service. Donc, elle supporte alors de nombreux projets et multiplie les outils et dispositifs de gestion. Alors, avant de parler de ces outils et dispositifs de gestion, venons-en à ces fameux planeurs. Qui sont-ils? Qui sont ces cadres administratifs? Qui sont ces planeurs de la DRH? Donc, la propagation des dispositifs dans les universités vient confirmer la généralisation du management par les dispositifs au-delà des grandes organisations productives privées. Alors on a rien maintenant à envier, je pense, aux organisations du secteur marchand concurrentiel. On a une profusion de dispositifs. Et pour étudier leur production, et non pas leur réception sociale, qui est d'ailleurs largement documentée par la littérature, il faut s'intéresser au travail des faiseurs et diffuseurs de ces dispositifs. Donc on a beaucoup de travaux sur les anciens chercheurs maintenant, il me semble-t-il. On en a quand même beaucoup moins sur les personnels administratifs et les BIATS. Et donc c'est au sein de la DRH que nous sommes allés à la rencontre des cas administratifs, au sein de la DAPEC, qui conçoivent, produisent, traduisent, activent, propagent les dispositifs de gestion et de management. Donc je ne vais pas revenir finement sur les propriétés trajectoires des 18 cadres administratifs que j'ai rencontrés à la DRH, mais on peut faire une série de constats. Premier constat, on a affaire à un groupe professionnel assez homogène. Ils, elles sont la plupart diplômés de niveau 7, master, DEA, DESS, et de niveau 6, maîtrise, licence, formés et diplômés par une université constitutive de l'UL, et par l'Université de Lorraine pour les plus jeunes. Et les 18 cadres en question sont effectivement de catégorie A. Alors, les cadres qui n'ont pas un niveau, qui ont niveau 4, bac ou 3, CAP ou BEP, ils sont 4 sur l'effectif. Ils ont gravi les échelons en passant les concours administratifs de différentes catégories jusqu'à être promus IGE, ingénieur d'études. Et donc, ils ont connu un avancement et maintenant, les 18 cadres sont de catégorie A. Donc, ils ont des carrières assez linéaires. Formés à l'université, elles ont fait carrière à l'université. En responsabilité RH de l'université de Lorraine, avant la fusion pour la majorité, elles ont intégré l'équipe directionnelle de DRH de l'UL et ils sont devenus des experts RH. Voilà. Il y a ce mot qui revient plusieurs fois dans un interview, nous disent nous sommes des experts RH, même si leur formation ne les conduisait pas forcément à se spécialiser dans ce domaine, comme le souligne le DRH, qui dit alors les RH, ça m'est tombé dessus par hasard, mais un hasard qui fait bien les choses, puisqu'il ajoute juste mais j'ai la fibre RH. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir la fibre RH, mais alors, ce qui était très amusant quand j'ai fait mes entretiens, c'est que au service RH, j'avais formé plein d'étudiants. Voilà. Parce qu'avant d'être au département de sociologie, j'étais dans un UFR AES, administration économique et sociale, et il y avait plein d'étudiants qui étaient passés par AES que je retrouvais dans mes entretiens. Donc leur discours montre que ces cadres, ces sous-directeurs, sous-directrices et ou responsables de pôle de la fonction support RH sont des agents investis, pris dans le jeu et par le jeu. Alors peut-être pas aussi croyants que les porteurs d'IDEX, mais c'est quand même des croyants. Un investissement et un enrôlement qui renvoient à ce que Pierre Bourdieu désigne comme une adhésion tacite au nomos, une forme particulière de croyance, un illusio qui interdit de fait la mise en question des principes de la croyance qui menacerait l'existence même du champ. Et je reprends donc la définition d'illusio de Pierre Bourdieu. Et même s'ils ont des doutes, voire des désaccords, elles ne résistent pas au sens de leur place qui les conduit à relayer la politique et le projet d'établissement. Alors ils sont quand même des dominés, on pourrait dire des dominants dominés, mais voilà, ça reste des biats et ils servent les gouvernants. Et donc, ils ne sont pas en position de gouvernance. Ils sont dans un rôle d'intermédiation entre la direction politique de l'université et les composantes, des Janus, selon le terme d'une sous-directrice, je la cite. Pour moi, c'est un Janus, la sous-directrice, c'est à la fois être tourné vers la politique de l'établissement, C'est-à-dire que tout ce qu'on fait au quotidien doit être en cohérence avec le contrat d'établissement. On ne peut pas y déroger. C'est la volonté du président, même si on n'est pas toujours d'accord. Et puis, tourner aussi avec les composantes pour dire, voilà, la volonté de l'établissement, c'est ça. Et comment on essaye tous ensemble de la mettre en œuvre. Donc, pour ceux et celles qui ont le plus d'ancienneté dans l'institution et qui exerçaient déjà des fonctions RH avant la fusion, cette dernière a fonctionné comme un accélérateur de la modernisation de la GRH, déjà initiée par le passage aux responsabilités et compétences élargies que proposait la LRU. Elles font le constat d'un mouvement concomitant d'essor et de modernisation de la gestion des ressources humaines. Donc ce double mouvement d'essor et de modernisation de la GRH s'accompagne donc d'une montée en puissance de ces cas administratifs qui doivent la porter, qui doivent le porter, et ont tendance à se percevoir comme des agents de rationalisation et de centralisation organisationnelle, notamment face à des composantes qui sont davantage préoccupées par la défense de leur autonomie et de leur spécificité disciplinaire. Alors quand on est dans des instances, hein, on a tous rencontré ça, hein, la guerre entre les services centraux et puis les composantes, là où nous on veut défendre nos postes, on veut défendre nos conditions de travail, et là où les services centraux sont là pour rationaliser et pour faire des coupes budgétaires. Donc il y a souvent effectivement hiatus entre la politique d'établissement relayée par les services centraux et puis ce que veulent les composantes. Donc on peut affirmer, en suivant toujours Julien Barrier et Christine Musselin, que la DRH comme fonction support constitue, je les cite, l'un des foyers actifs de la diffusion de logique managériale au cœur des universités, en contribuant à placer des questions de coût, d'objectivation des pratiques ou de mesure de la performance dans l'horizon quotidien des universitaires. Donc tous les services et pôles que j'ai cités dans l'organigramme n'y participent pas au même degré. Pour nombre d'entre eux, ce sont avant tout la technicité et l'expertise dans un domaine qui sont tendus, mais l'ensemble des sous-directrices et des responsables sont invités à contribuer au projet de direction de la DRH, notamment en s'engageant sur les chantiers entrepris et dans les groupes de travail mis en place. Alors, il faut voir, hein, ces cas administratifs, ils sont dans énormément de groupes projets et ils passent leur temps en réunion. Et ça vaudrait la peine, effectivement, de faire une étude très affinée de la participation de ces cadres aux nombreux chantiers et groupes de travail mis en place. Et ça donnerait à voir, certainement, une division du travail gestionnaire et managérial au sein de la DRH, mais aussi certaines luttes juridictionnelles entre sous-directions. Et dans les entretiens, c'est ce que j'ai observé, hein, je vous ai présenté l'organigramme, la sous-direction qui est le plus en vogue et qui est où il y a le plus de dominants, c'est bien la sous-direction pilotage et ressources humaines qui occupe une place centrale parce qu'ils sont les véritables planeurs de la DRH, ceux et celles qui conçoivent et produisent les dispositifs, ceux qui mettent en place les démarches qualité, ceux qui mettent en place la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ceux qui, avec la TABEC, vont mettre en place les tableaux de bord, etc., etc. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des conflits au sein de la DRH et des conflits juridictionnels, comme en parlent les sociologues des professions. J'en arrive aux outils de gestion de la DRH, à cette instrumentation inédite. Alors, j'ai, pour m'amuser, hein, fusionné deux dispositifs du diaporama fourni par le directeur des ressources humaines pour illustrer le projet de direction et les grands chantiers engagés. Donc, ce sont des projets pour lesquels l'Université de Lorraine est souvent pilote ou pour le moins volontaire, qui renvoie à différents outils ou dispositifs, mais la liste n'est pas exhaustive. Et donc là, c'est aussi une manière d'aller vers ces réformes-là. C'est-à-dire que voilà, on est de plus en plus dans l'expérimentation. Donc on a quelques établissements qui sont expérimentaux, puis après, bah, ça se généralise. Et alors, à l'Université de Lorraine, on est plutôt bon élève. Et quand on peut, on y va. Voilà. Quand on peut, on y va. Et le chercheur se perd effectivement rapidement dans ce maquis de dispositifs que l'on pourrait sans doute classer à la manière de Marianne Dujarrier, en dispositif de finalité pour faire et atteindre les objectifs fixés, donc contrôle de gestion, évaluation, tableau de bord, outils de reporting, en dispositif de procédé pour organiser le travail, ordonner les tâches et imposer une manière de les réaliser, les démarches qualité, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les enquêtes fonctions, le fameux HRS4R, qui est une certification pour bien recruter nos collègues, et en dispositif d'enrôlement pour encadrer et faire adhérer, donc le fameux projet Efficience 2022, les projets de direction. Alors là, il y a une multiplication de schémas directeurs. Voilà. Tous les services, maintenant, ont leur schéma directeur. Et si, effectivement, on voulait lire tous les schémas directeurs de l'université, bah, il nous faudrait, effectivement, des jours, voire des semaines. Ou encore, la fonction management, la formation management. Voilà, on est, en tant que manager, invité à se former. Alors, quand j'étais, effectivement, directeur de laboratoire, j'ai participé à une formation management. Alors, j'y allais plutôt en tant que sociologue, plutôt que de devenir un bon manager. Mais alors, ça vaut la peine d'aller dans ces formations management. Mais l'idée, quand même, c'est ça. C'est harmoniser, quand même, le management et créer, quelque part, une sorte d'habitus managérial. Alors, il me faudrait sans doute la journée pour présenter l'ensemble de ces outils et dispositifs de gestion. Et je vous assure, j'en serais bien incapable. Mais le premier constat qu'on peut faire et un foisonnement d'outils ou de dispositifs qui en génèrent d'autres. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on met en place des dispositifs qui génèrent d'autres dispositifs. Donc on n'en finit pas de créer effectivement des outils. Cette instrumentation, deuxième constat, va de pair avec une montée en puissance de la GRH qui s'accompagne d'une professionnalisation des cadres qui la portent. Alors quid de certains administratifs qui seraient, eux, en voie de déprofessionnalisation, alors que d'autres, inversement, seraient en voie de professionnalisation en raison de l'apparition de la montée en puissance de nouvelles activités. Donc, quand Audrey parlait de restratification par le haut, par le bas, là, on a bien des cas administratifs qui se professionnalisent parce qu'effectivement, on leur demande de s'investir dans de nouvelles activités, des audits, par exemple, ou la production de nouveaux dispositifs en interne. Et puis, il y a effectivement des cadres de catégorie C qui, au contraire, se spécialisent et qui ont un travail essentiellement technique. Elles nécessitent, troisième constat, des apprentissages individuels et organisationnels qui prennent des formes diversifiées et qui ont sans doute partie liée au type d'apportation de l'outil ou dispositif, qui relève d'un isomorphisme coercitif, l'outil est imposé par l'État, d'un isomorphisme normatif, l'outil est promu ou diffusé par un groupe ou une instance, la France Université, les présidents d'université, ou l'AMU, l'Agence de mutualisation des universités ou des établissements, ou d'un isomorphisme mimétique, l'outil est repris d'une autre université. Et voilà, on pourrait, à chaque fois qu'on s'intéresse à un dispositif, voir de quel isomorphisme on a affaire. Mais voilà, tous ces cas administratifs, ils font partie de réseaux. Le DRH fait partie du réseau des DRH. L'agent comptable fait partie des agents comptables des universités, etc., etc. Et du coup, il y a un échange sur les bonnes pratiques et sur les dispositifs mis en place. Les apprentissages, quatrième constat, de type top-down, de haut en bas, impliquent tout un réseau d'acteurs. Le processus d'apprentissage qui produit tout un discours de légitimation pour faire accepter l'outil et faciliter son implémentation n'en rencontre pas moins des résistances, des oppositions, des conflits qui donnent lieu à des apprentissages, des arbitrages, pardon, et aboutissent à des adaptations. Donc quand on va sur le terrain et qu'on voit comment ces outils sont utilisés par les personnels BIATS en local, dans les composantes, on voit qu'effectivement, il y a quand même des traductions locales et des arbitrages. Le management par dispositif, cinquième constat, renforce le pouvoir des planeurs qui conçoivent ou adaptent ces dispositifs et les diffusent. Ils consolident leur expertise, mais ils génèrent aussi des luttes de juridiction, des conflits de périmètre, et donc concurrence entre directions ou en leur sein entre sous-directions. Et donc j'ai appris récemment que voilà, l'organigramme de la DRH a encore changé, puisque le DRH part, il rejoint sa collectivité territoriale qu'il avait quittée, c'était un contractuel, hein. Et donc on change de nouveau l'organigramme, et je fais l'hypothèse que ce nouvel organigramme, il est lié aux luttes juridictionnelles que j'avais perçues dans mon enquête de terrain. Et ça, je ne peux pas trop le dire, c'est juste une hypothèse de travail. Et la fusion, sixième constat, a consacré le management par les dispositifs qui n'est pas sans conséquence sur la gouvernance universitaire et le mode de gouvernement de ses personnels. Donc j'en arrive à ma conclusion, j'espère que je suis dans les temps. Donc du coup, quel effet transformatif ? Alors, je ne suis pas forcément toujours en mesure d'évaluer tous les effets transformatifs de ce processus d'instrumentation et de rationalisation gestionnaire. Les premières études de cas sont de toute façon à compléter par d'autres investigations. Je poursuis mes travaux, mais nous savons que sous l'effet des réformes peu ou prou inspirées par le New Public Management, la bureaucratie professionnelle universitaire se trouve profondément transformée, sapant les principes d'autonomie et de collégialité qui lui sont chers. Donc si on prend la vieille typologie d'Henri Mintzberg, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais on peut considérer notre université comme une bureaucratie professionnelle. Donc on est encore dans une gestion des pairs par les pairs, donc un fonctionnement assez collégial et assez démocratique. Sauf que, effectivement, on voit bien que l'université est en train de changer, alors que certains professionnels placés au cœur de l'institution voient leur pouvoir et leur autonomie décliner, d'autres sembleraient en voie de professionnalisation. Donc on peut effectivement observer une professionnalisation renforcée chez les concepteurs implémenteurs des outils. Alors c'est vrai que le mot n'est pas très beau, mais bon, ça parle bien. Les concepteurs implémenteurs des outils, donc notamment les directions. Et ici, je ne parle que des planeurs internes. Alors, ce n'est pas seulement ceux qui planent, parce qu'ils sont loin, effectivement, du travail quotidien des personnels BIAT, mais c'est ceux qui planent parce qu'ils organisent le travail aussi en plan. C'est ça l'idée. Et je parle des planeurs internes, je ne parle pas des planeurs externes. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, les universités ont beaucoup recours aux cabinets externes. Donc, il y a aussi toute une sociologie qui est faite, hein, des consultants, et une sociologie qui est faite du recours par les universités de ces cabinets de consultants. Hein, je disais en aparté que nous sommes dans une démarche différente de la vôtre pour réinventer les rapports au travail université, puisqu'on voit bien qu'il y a des problèmes de souffrance, de santé au travail. Alors là, on fait appel à un cabinet extérieur pour mener une enquête. Et donc, on a quand même une enveloppe de 140 000 euros pour payer un cabinet externe, comme si on n'avait pas les ressources en interne pour faire cette recherche-là. Donc, alors, une professionnalisation renforcée chez les concepteurs implémenteurs des outils et dispositifs, mais aussi les usagers dans l'université. Et quand je parle des usagers, c'est les gestionnaires, c'est les cadres, c'est les directeurs de composantes et de laboratoires qui sont enjoints aussi à se professionnaliser pour mobiliser ces outils et dispositifs imposés en partie par la contrainte externe, les obligations réglementaires, les évaluations HRS et tout ce qu'on connaît quand on est effectivement dans des fonctions effectivement de responsabilité collective. Donc ce renforcement de la professionnalisation, renforcement des juridictions d'un groupe professionnel peut s'expliquer par l'apparition et ou la montée en puissance de nouvelles activités, la technicité des outils et des procédures. On parle de logiciels, de nouveaux applicatifs informatiques, donc ça demande effectivement de nouvelles compétences, une inflation des normes et une formalisation accrue, une complexité croissante. C'est fort de cette expertise que se mettra en place une sorte de technobureaucratie universitaire, un ensemble de professionnels jouissant d'une situation privilégiée, caractérisée par leur prétention à la technicité, à la rationalisation dans le domaine de la gestion administrative. Alors, sans parler d'une nouvelle classe de managers à la manière de James Burnham, on a bien affaire à des professionnels du management qui participeraient à la pénétration d'une pensée technocratique qui est au fondement de ce que certains auteurs appellent la bureaucratisation néolibérale. Alors, je trouve que effectivement, ce néologisme fonctionne bien pour nos universités. Alors moi, j'entends beaucoup parler de la fin du néolibéralisme. Bon, je ne vois pas beaucoup, en tout cas, que ce soit dans les hôpitaux publics, que ce soit effectivement à l'université, dans la justice sur laquelle je suis en train d'inquiéter. Je ne vois pas trop le dépassement du néolibéralisme. Et je trouve plutôt effectivement un renforcement de cette bureaucratisation néolibérale. Donc si cette technobureaucratie ne gouverne pas, elle sert ceux qui gouvernent. Donc l'université reste une bureaucratie professionnelle qui est toujours marquée, pour parler comme Lennart Svensson, par une gouvernance professionnelle, représentée sous une forme collégiale, mais qui semble de plus en plus contestée par la gouvernance organisationnelle du management et la technobureaucratie. Voilà, donc l'hypothèse sur laquelle je travaille actuellement, la double fabrique d'administrateurs politiques, on va les appeler comme ça, les présidents à leur état-major, parce que, voilà, on a quand même, là aussi, créé une classe de technocrates. Il y a 20 ans, les présidents d'université, ils faisaient un mandat et ils redevenaient enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, si on s'intéresse aux trajectoires des présidents et présidents d'université, c'est rarement le cas. Ils finissent recteur ou au cabinet du ministre. Mais voilà, on crée de nouvelles carrières pour ces administrateurs politiques. La double fabrique d'administrateurs politiques, les présidents et leur état-major, et d'administrateurs techniques qui les secondent, les cadres administratifs qui constituent ce que j'appelle la technobureaucratie universitaire, confirmera donc l'hypothèse d'une bureaucratie néolibérale, d'une bureaucratisation néolibérale de l'université. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.
Merci. Bon, je vais éteindre.
Oui, je peux dire du mal de l'université.